du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro 722 du coq à l'âne avec, alors autour de la table, Jean Cointe.
Bonjour.
Jean-Claude Hérault est avec
nous. Bonjour.
Bonjour. Et Pierre Louroni.
Bonjour.
Ça faisait longtemps.
Eh oui.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Pierre-Louis autour de la table. Bon, beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. On va parler du premier. Alors, on en est où avec Poutine, là, franchement?
Putain. Catastrophe.
Est-ce qu'il veut toujours dénazifier l'Ukraine? C'était la question. D'ailleurs, j'avais une petite musique. Tiens.
On va danser le
Nazi rock, Nazi rock, Nazi.
On va danser le Nazi rock.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Vous avez reconnu qui chante?
C'est pas.
C'est Gainsbourg, absolument. C'est notre ami Serge Gainsbourg. Voilà, donc, alors, il paraît qu'il y a des groupuscules nazis en Ukraine. Vous êtes au courant, vous avez suivi un peu ça.
En Grèce aussi.
Il y en a en Autriche, il y en a en Allemagne, il y en a même chez nous. Donc, chez nous, en fait, il y en a un petit peu partout. Si tu peux te permettre, je t'en prie.
Aristote aux nazis.
Pardon ?
Aristote aux nazis.
On est mal barré. Hein.
Non, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça. C'est Jeannot, toujours en pleine forme.
Fait un retour tonitruant, Jeannot.
Donc tout ça pour vous dire que des groupuscules, il y en a partout, mais de quel droit, je pourrais dire, s'arme-t-il notre ami Poutine, enfin notre ami façon de parler, de l'armure de chevalier blanc pour le coup, en plus avoir lui des méthodes de nazi. C'est quand même un peu étonnant. Comment peut-on, dans l'entourage de ce psychopathe, quand même, ne pas se rendre compte qu'il est un petit peu malade quand même, hein? Dénazifier l'Ukraine, pousser des millions de personnes hors des frontières, créer le chaos, la destruction, la mort, vous avez tous suivi ça, on le voit tous les jours à la télé, pour un pays où l'extrême droite en plus c'est peanuts. Ouais, non, mais j'ai été faire des recherches justement pour savoir où on en était sur l'extrême droite en Ukraine. Dernières élections présidentielles en Ukraine, écoutez bien, vous plaignez autour de la table qu'il y avait trop de candidats aux élections en France, aux présidentielles.
On en a 12,
mais il y en avait beaucoup plus au départ, vous vous souvenez, on bordurait peut-être les 30, je crois, ou un truc comme ça. Bref, eh bien sachez qu'en Ukraine, pays démocratique, je dis ça pour l'autre barge de Poutine, qui lorsqu'il organise des élections chez lui, il met en tôle les opposants les plus vigoureux, histoire d'être élu dans un fauteuil. Mais revenons à nos présidentielles en Ukraine. Combien de candidatures aux dernières élections présidentielles en Ukraine, c'était en 2019? Un chiffre.
Je sais pas.
Ouais, dis un chiffre.
Il y a une vingtaine.
20?
30.
30?
Bah, je vais dire 40.
Eh ben voilà, 91.
Non.
Ah oui. 91 candidatures en Ukraine.
Là, c'est beaucoup, là.
91. Alors, elles ont été toutes soumises, bien sûr, à la Commission électorale centrale d'Ukraine, bien sûr. Sur le 91, il y en a 44 qui ont été approuvées. D'accord. 47 donc rejetés. Et sur les 44, 5 ont renoncé au dernier moment. Bref, on s'est retrouvé avec 39 candidats. En 2004, il n'y en avait que 24. Bon, tout ça pour vous dire que là-bas, on peut se présenter, hein. Il n'y a pas de problème.
Ça pose des questions quand même. Hein.
Ouais, ça pose des questions.
Oui, sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de partis, de grands partis ou de gros partis ou de partis importants, que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles l'étaient jusqu'à il y a quelques années chez nous, c'est-à-dire d'un côté la droite, d'un côté la gauche, le libéralisme ou l'antilibéralisme.
Hein, j'ai fait le détail, détail pour vous aider et vous dire un petit peu comment ça se passe, mais tout ça pour vous dire qu'on est dans un pays démocratique et tout le monde peut se présenter, ce qui est quand même pas mal.
Oui. C'est quand même compliqué d'organiser un débat avec plus de 39 candidats.
Non, je pense qu'ils, tout simplement, ils font l'apprentissage de la démocratie.
C'est ça, ils se cherchent.
Ils se cherchent.
Tout à fait. Alors, j'ai compté combien il y en avait, hein, 39. Donc il y avait 23 candidats classifiés, on va dire, centre-droit. D'accord, il y en avait 8 centre-gauche, 4 centristes, 2 partis de droite, un parti attrape-tout, c'était celui de Volodymyr Zelensky, il s'appelle attrape-tout, il voulait ratisser large lui.
L'acteur,
tout à fait,
oui.
Et
attrape-tout ça fait...
je n'ai pas dit attrape-fille, j'ai dit attrape-tout, non parce que je te vois avec ton petit œil vicieux là, attention, jeté à l'œil.
Non, moi aussi.
Et un parti d'extrême droite. Un seul. Zelensky est donc sorti vainqueur, vous le savez, hein, de cette présidentielle, 30% des voix. Devant le deuxième, c'était Petro Poroshenko, un indépendant centre-droit qui lui bordurait les 16%. Zelensky a remporté évidemment le deuxième tour haut la main, 73,22% des suffrages. Pour info, le parti d'extrême droite a fait 1,62%. Là-dessus, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, Zemmour, il est... grosso modo, 10%. À 10%, parce qu'il a un peu baissé. Hein. Donc d'ici à ce que Poutine vienne nous dénazifier aussi, on ne sait jamais. Hein. Pour les législatives, parce qu'ils ont enchaîné comme en France, hein, après les présidentielles, les législatives, le parti Svoboda, issu de plusieurs groupuscules d'extrême droite pure et dure, a réalisé 2,15%, soit un siège sur 450. Donc voilà, c'était pour vous situer un petit peu le parti donc nazi en Ukraine.
La tendance nazie.
Donc voilà, non, la tendance
on a tous compris
nazie en Ukraine.
On a tous compris que Poutine, il utilise des arguments qui n'en sont pas. Quoi.
Oui, mais le problème, c'est que ce sont des arguments qui sont repris par le peuple russe, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Qui sont désinformés. Et on a vu pas mal de journalistes se balader, poser des questions, et les gens disent, non, mais nous, c'est l'armée qui est en train de faire le bien en Ukraine, justement, pour aller chasser le nazi. Ouais, ouais. Donc voilà, ça fait quand même un peu peur, tout ça, quoi. Ouais, ça fait un peu peur.
Bon, faut pas se moquer, je fais un peu le grand écart, mais il n'y a pas longtemps, je sais pas où j'avais vu ça, j'entendais ce que le pourcentage de Français, pour ne parler que de notre pays, hein, pourtant, a priori, nous, on n'a pas échappé à la démocratie, on a l'impression d'être bien informé, d'avoir un cerveau, etc. Et ce petit reportage rappelait le pourcentage des gens qui pensaient, notamment en France, que les attentats du 11 septembre avaient été organisés par les États-Unis.
Oui.
Et tu sais qu'il y avait plus d'un Français sur deux dans les statistiques qui le pensaient
qui
encore.
Pensaient que c'était...
Il y avait toute une série de choses comme ça qui paraissent quand même assez effroyables, notamment ça, par exemple. Tu te dis, tu sais, en fait, je crois que on peut instrumentaliser tout le monde et que nous on n'échappe pas à la règle et qu'il faut pas il faut pas croire qu'on a de la chance nous d'avoir que des bonnes informations quand on voit que dans un pays comme ça il n'aurait que des mauvaises informations ou des choses fausses quoi. Les choses sont peut-être pas si simples que ça.
Voilà. Oui, parce que nous on a des fausses infos mais on a aussi des bonnes.
Oui.
Je pense qu'on a un petit peu de tout. Ouais. Après tu peux faire ton tri là-dedans.
Oui, mais...
et c'est à toi d'aller faire ton petit marché. Alors qu'en Russie c'est quand même très compliqué d'avoir deux informations.
Je suis pas sûr, ils ont internet comme nous. Ils ont internet comme nous. C'est soit ils ont envie. Enfin, si tu veux, il y a l'information et ce que tu fais de l'information. Si on te dit les attentats du 11 septembre, c'est un complot américain.
Mmh.
Et si on te dit le contraire, c'est toi qui as ton libre arbitre qui va creuser ou pas. Tu vas décider. Oui, j'y crois. Lui, je crois l'autre. Les Russes, c'est pareil. Ils peuvent croire ce qu'on leur dit ou ne pas croire ce qu'on leur dit.
C'est les réseaux sociaux qui sont une caisse de résonance de
c'est
tout ça.
C'est ça. Mais je suis pas sûr qu'ils soient épargnés d'informations que nous donnons, nous, chez nous.
Alors chez nous, sur le plan historique, c'est vrai qu'on a eu souvent la censure de la part de certains régimes, comme Louis-Napoléon, enfin, Bonaparte aussi, bien sûr, avant lui. Il est vrai que même jusqu'en 1968, la radio et la télévision étaient des radios et télévisions d'État. Il n'était pas question d'avoir un autre langage que celui que nous imposait le général de Gaulle.
Bah oui, non, mais tout
il
à fait.
Mitterrand pour que la presse et les radios soient complètement libres.
Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était sous une dictature.
Non, pas vraiment. Mais
bah si. Bah enfin,
j'étais sous une dictature qui avait raison d'ailleurs de l'être pour permettre l'émancipation de l'Algérie. On a droppé nos colonies, tout ça, on a réglé ce problème colonial qui nous a empoisonné.
Ouais.
Et la paix est revenue enfin en France.
J'ai rebondi là-dessus parce que en parlant de dictature, ça m'a fait penser à ça. Tenez, écoutez ça.
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Voilà, c'était un petit clin d'œil pour toi, hein, Jeannot.
C'est une caricature.
La France du général. Ouais. Oui, donc pour en venir donc, à l'information, il faut savoir quand même que les organes organes de presse qui ne sont pas du côté du pouvoir ont des difficultés à vivre en Russie. Et la dernière, d'ailleurs, le dernier journal qui pouvait encore émettre quelque chose sur la Russie a dû fermer ses portes il y a 3 jours, hein, parce que sinon, c'était la prison. Donc voilà, c'est pour te dire que c'est quand même très compliqué d'avoir les deux informations comme nous, on peut l'avoir ici en France, mon petit Pierre-Louis.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a qu'une information qu'on nous dit n'importe quoi. Et c'est pas parce qu'on a toutes les formations qu'on ne nous dit pas n'importe quoi.
Ouais,
le
évidemment.
Truc, il est là, c'est tout. C'est que, voilà, il paraît que sur Internet, tu trouves tout.
Ah oui.
Et comme tu trouves tout, tu trouves autant de choses qui sont réputées vraies que de choses qui sont réputées fausses. Regarde, nous, autour de la table, avec ce que l'on sait, on n'est pas toujours d'accord. Tout est une question d'interprétation. On a notre libre arbitre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on pense aux Russes et qu'on se dit, voilà, ils n'ont qu'une seule information et donc ils pensent que comme ça, je trouve que c'est un peu facile. Voilà.
Non, mais en plus, ce n'est pas vrai. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi.
Voilà. C'est pas
il faut faire confiance au peuple
voilà,
russe.
C'est ça.
C'est un peuple intelligent, le peuple russe. Il y a une partie du peuple russe qui sait très bien que leur président fait la guerre à l'Ukraine. Hein.
Oui,
faut pas rêver.
Mais
ils sont
juste
très conscients,
mais
sauf qu'ils ne sont pas libres.
Mais ils font le canard, quoi.
Ils font le canard, certains.
On fait pareil, nous. Hein.
Je veux dire, ils ne sont pas libres.
Parce
s'ils
ne
font pas le canard...
Sinon, ils sont en tôle.
Mais enfin, par rapport à...
En plus, ils ne sont pas touchés. Enfin, la Russie, c'est un grand pays.
Oui.
Moi, des fois, je pense à moi le matin en trouvant que c'est terrible.
Mmh.
Et comme les infos, je les regarde que le matin, je les regarde en prenant mon petit déjeuner.
Mmh.
Si je me regarde en train de regarder les informations en prenant mon petit déjeuner, je me dis...
Parle bien devant ton micro.
T'es vraiment cynique, Pierre-Louis. Comment tu peux écouter, regarder ce que tu vois sans que ça te coupe l'appétit. Et je repense à d'autres conflits qui nous touchaient beaucoup moins parce que c'était beaucoup moins proche et on s'en foutait un peu. Je me mets à la place des Russes. Voilà, ils ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre comme nous, on a envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. Voilà, des fois ça nous touche d'un petit peu plus près, donc on est préoccupé. En fait, qu'est-ce qui nous touche vraiment là? C'est que l'essence augmente. Là, je suis un peu cynique, hein, mais c'est que l'essence augmente, c'est qu'on risque d'avoir du gaz un petit peu plus cher. S'il n'y avait pas tout ça, tu crois qu'on serait aussi préoccupé de ce qui se passe?
Non, je suis pas d'accord avec toi.
J'ai dit que j'étais cynique.
Je suis pas d'accord avec toi.
Mais tu as raison et c'était pour te bousculer.
Tu es très cynique parce que moi je regarde un peu la télé le soir, je devrais pas peut-être, mais quand je vois les images, j'en parlais tout à l'heure en préparant l'émission là, à mon ami Jeannot, quand on voit les images le soir de ces villes détruites, de ces gens qui vivent dans le métro depuis 4 semaines, qui vivent dans les caves, qui vivent dans les sous-sols, vous imaginez, comme des rats, et ça, on devrait être insensible. Mais on est
t'as pensé la même chose de ce qui se passait il n'y a pas si longtemps
que ça,
en Irak ou...
Oui,
mais
on en pensait, voilà, mais on en parlait moins. Voilà.
Oui, on en parlait, oui, mais voilà. Tu as totalement
raison. La caisse de résonance était moins forte.
Et ça, mais ça continue là-bas.
Ça continue,
bien
voilà,
sûr.
Bien sûr. Et les talibans et les femmes là-bas,
ça,
afghanes,
voilà,
qui n'ont plus voilà. accès à l'école.
C'est ça, tu vois, j'allais te parler de ça.
Mais bon, après...
Tu vois, on est informés, mais on est quand même tous orientés. Voilà, donc nous, il ne faut pas...
C'est pas ça, c'est qu'il y a des priorités. Si tu veux, c'est-à-dire que. Mais c'est ça, on va dire qu'on est égoïste parce que quand Poutine est allé buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes, personne n'a rien dit parce qu'il a détruit Grozny comme il a détruit certaines villes ukrainiennes. Et puis c'est vrai que c'est comme ça, je veux dire, la Tchétchénie c'est loin.
Oui, oui.
C'est un conflit interne, on va dire. Après tout, c'est des gens de l'Asie mineure, on s'en fout, c'est tous des barbares, enfin, on va dire, rapidement.
Oui, ça, c'est un raccourci que tu fais.
C'est
pas ce qu'on pense, hein. On vous rassure, hein, si vous écoutez, c'est pas ce qu'on pense, mais c'est le raccourci qu'on fait. De toute façon, ces Tchétchènes, ils sont loin.
Qu'on le veuille ou non, on est tous des humanistes.
Bien sûr. Mais oui.
De droite ou de gauche, du centre, peu importe, on s'en fout, mais on est tous des humanistes. Et on est tous des démocrates. On aspire tous à la liberté. À la liberté d'expression, le coq à l'âne, ça en fait partie, la liberté d'expression. Donc on voit bien qu'on ne peut pas être insensible à ce qui se passe là-bas, aujourd'hui, en Ukraine et ailleurs.
Le fait qu'on soit aujourd'hui à fleur de peau sur ce qui se passe en Ukraine, c'est parce que, comme tu dis, mais tu as raison, c'est vrai que c'est proche de nous, c'est sur notre terre, c'est sur l'Europe, c'est à côté de nous, donc on est plus sensible à ça. Après, moi, j'ai toujours été sensible, peut-être moins à ce qui s'est passé à Alep que ce qui s'est passé en Afghanistan. Et c'est vrai que ça me déchire de voir les gamines en Afghanistan qui ne peuvent pas aller à l'école. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'une petite fille qui pleurait parce qu'elle pouvait pas aller à l'école. Et je me disais, en France, il y a des gamins qui chialent parce qu'ils vont à l'école. et Lama, elle pleurait parce qu'elle avait pas le droit d'aller à l'école. C'est quand même un truc de fou.
Si je peux rajouter une chose aussi, c'est qu'il y a des conflits passés qui ont été aussi très meurtriers. Par exemple, les Américains, lorsqu'ils ont McNamara a ordonné de bombarder en dessus d'un certain parallèle, donc carrément le Vietnam du Nord, il y a eu des milliers de victimes et sous le napalm, personne n'a rien dit. On va dire que finalement, le terrorisme international et cette espèce de cruauté naturelle chez l'homme, apparemment, n'est pas l'apanage que de Poutine, mais d'autres personnes, même dans les démocraties.
Et
ça nous réveille.
Pour revenir à ton cynisme, puisque tu disais aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus, c'est le prix de l'essence.
Oui, je caricaturais. Mais
tu n'as pas tort.
Tu caricatures, mais néanmoins, je suis tombé là-dessus sur un sondage qui est paru, les enjeux comptant plus au premier tour des présidentielles. Le pouvoir d'achat à 58%, le système de santé à 27%, l'environnement à 25%, l'immigration à 24%, les retraites à 24% et la guerre en Ukraine qui arrive dernier avec 23%. Alors attends, je te laisse maintenant, puisqu'on est dans le cynisme, avec un des intervenants qui était autour de la table sur cette chaîne, je ne sais plus laquelle, et là, pour être cynique, il était cynique.
Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, parce que ce qu'on avait présenté comme un effet choc, le fait qu'il allait ce qu'on appelle se rassembler autour du drapeau un peu, au fond, pour Emmanuel Macron, cette élection, la guerre est arrivée un peu trop tôt dans sa propre campagne, puisque maintenant l'effet guerre est en train de de s'effacer. Il reste 15 jours et il n'y a plus cet effet de tétanie où tout le monde se dit bon, après tout, c'est le chef et il faut soutenir le chef. Et donc effectivement, je suis vraiment frappé par l'ampleur de l'évolution.
Oui, l'ampleur de l'évolution de ce sondage, puisque la guerre en Ukraine, il y a trois semaines,
d'ailleurs,
il y a 15 jours, était devant, bien sûr.
Il y a
une
candidate qui l'a bien compris, ça. Je ne la citerai pas, parce que je ne sais pas si on peut. Il y a une candidate d'extrême droite qui l'a bien compris.
D'accord, blonde.
Une blonde. Elle a très bien compris. Mais c'est vrai que, après que la... C'est terrible ce qu'il vient de raconter là. Je sais pas qui racontait ça.
C'est un intervenant qui était sur truc et qui analysait le truc en disant oh bah oui mais la guerre.
Parce qu'il a l'air de dire que la guerre est derrière nous.
Oui.
Il faut arrêter là.
Mais non, la guerre est derrière nous. La guerre est derrière nous dans nos préoccupations.
Ouais, mais non.
Dans la préoccupation des Français. Elle arrive dernière. Hein.
J'entends que le Poutine va couper le gaz parce qu'il veut qu'on paye.
En rouble.
En rouble.
Moi, j'ai dit, on va le payer en copec.
Parce qu'aujourd'hui, on est le 1er avril. Honnêtement, on est le 1er avril aujourd'hui. Si on nous avait dit ça il y a deux mois, Poutine va couper le gaz parce qu'il veut qu'on paye en rouble. On aurait tous dit, c'est un 1er avril. C'est un poisson d'avril. Honnêtement. Franchement, quand j'entends ça, et l'air de dire, c'est la guerre est derrière nous, mais moi j'ai pas du tout cette analyse. Moi je pense que la guerre est devant nous.
On n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti.
Ce qui est assez curieux, c'est que dans cette analyse là, si on se souvient de l'époque des Gilets jaunes, qui a commencé, donc c'était plein de Français dans la rue, qui a commencé par une augmentation du coût de l'essence. Je crois que c'était un tout petit peu plus de 10 centimes.
Oui.
Là, il n'y a aucun gilet jaune dans la rue, alors que la préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat, et l'essence a augmenté de 3 fois ou 4 fois plus que ce n'est pas. Ce qui veut dire
a doublé par rapport à ce qu'on avait.
Donc, si vraiment le pouvoir d'achat était la préoccupation première des Français, il serait peut-être 4 fois plus nombreux à descendre dans la rue parce que l'essence a augmenté.
Mais ils descendront peut-être après les présidentielles.
Pourquoi ils ne descendent pas
parce
qu'ils savent que... Enfin, ils savent, ils ont compris...
Que là, ce n'est pas un problème franco-français.
C'est ça. Ce qui veut dire que ça, au niveau de l'analyse... moi, je ne prétends pas être un analyste parce que ce monsieur est 10 000 fois plus brillant que moi, mais les choses ne sont pas si simples. Et tu vois, même là, un bon analyste, on peut nous faire croire ce qu'on a bien envie de nous faire croire. Voilà.
Je suis assez d'accord avec toi.
Parce que je pense que s'il n'y avait pas le conflit, que l'essence elle avait augmenté encore de 12 centimes, il y aurait encore les gilets jaunes.
Voilà. Alors, c'est intéressant puisque tu rebondis dans tous les sens. C'est bien, Pierre Le Héroni.
Pas souvent, mais quand il vient.
Bon, il rebondit. Alors du coup, il me casse complètement l'émission. Merde, désolé, je suis obligé de partir dans tous les sens, mais je rebondis aussi. Partons faire un tour en Europe, si vous le voulez, pour voir un peu ce qui se passe, puisque effectivement, le problème que l'on rencontre aujourd'hui en France, c'est un problème européen et voire mondial. Donc, un petit tour en Europe. Comment ça se passe la crise en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Espagne? Alors, j'ai pris ces trois pays-là, avec l'Espagne, où en ce moment, c'est la grève des routiers. Explosion du prix de l'essence aussi. Problème d'approvisionnement dans les grandes surfaces. Ça pourrait éventuellement arriver sur certains produits chez nous. Le gouvernement met la main à la poche. 1 milliard d'euros d'aide publique pour le transport routier. Insuffisant selon les syndicats. Un plan de 16 milliards pour aider les familles et les entreprises. Une remise à la pompe, comme chez nous, 20 centimes, 15 centimes qui sont pris en charge par l'État et 5 par les pétroliers. Il faut savoir que là-bas, l'inflation est à proche de 10%.
10.
Allemagne, une inflation proche de 7%. Le gouvernement a pratiquement mis gratos les transports en commun là-bas. Voilà. C'est-à-dire que vous allez payer 9 euros par mois et vous avez accès à tout. C'est-à-dire le bus, le métro, tout ça. Au niveau de l'essence ou le diesel, il est à 2,50. Il y aura des remises à la pompe de 30 centimes pour l'essence et 14 centimes pour le diesel. Un petit tour en Angleterre, qui ne fait plus partie de l'euro, vous le savez. L'inflation proche de 7, non, même un petit peu plus, 7,5. Alors, baisse des taxes sur l'essence pour un an, 5 pence de réduc. Alors, 5 pence sur réduc, ça vous dit peut-être pas grand-chose, c'est 0,01 euro le pence. Donc, c'est pas énorme.
Pas beaucoup, hein.
En revanche, augmentation du gaz et de l'électricité à partir d'aujourd'hui, là-bas, ils se prennent 50% d'un coup. 50% aujourd'hui d'augmentation du gaz et de l'électricité. L'inflation chez nous, elle est à 4,5.
Ouais. Cependant, si tu veux, on va dire que la Grande-Bretagne n'a rien perdu de son attractivité concernant les investissements productifs.
Ouais.
Et elle se classe de loin en tête de l'Europe, même en n'en faisant pas partie. Donc c'est ce pays où les gens, les multinationales aiment à s'installer.
D'accord.
Voilà.
Ok. Bon, en tout cas, pour l'instant, même s'il y a une inflation quand même à 4,5, on est un des pays de l'euro apparemment qui avons...
Pourquoi ?
L'inflation la moins...
Pourquoi ?
Je ne sais pas, tu vas nous expliquer.
Il faut se poser la question. Je pense que l'énergie, je le disais à Jean aussi, avant qu'on commence l'émission tout à l'heure.
Ah oui, ça a son importance.
Attendait notre ami Rooney. Et je pense que le fait de produire, d'être quasi...
d'avoir moins
autonome
besoin
en matière de production d'électricité, ça... malgré tous les problèmes qu'on a dans nos centrales, hein, qu'il ne faut pas oublier, puisqu'il y a je ne sais pas combien de groupes qui sont à l'arrêt parce qu'ils sont en entretien, malgré ça, on a quand même une certaine autonomie, une certaine force de production d'énergie électrique qui nous permet un peu mieux résister.
Vous imaginez si on avait, si on s'était maintenu, alors je ne discute pas du bien fondé de ceux qui critiquaient les centrales nucléaires, parce qu'ils ont peut-être raison ou pas, j'en sais, je ne suis pas spécialiste, mais n'empêche que là, au jour d'aujourd'hui, si elles étaient toutes en état de fonctionner, on serait, pardonnez le jeu de mots, mais on serait les rois du pétrole. Quoi.
Absolument, absolument, parce qu'on produit, on pourrait exporter notre énergie.
Oui.
Et je pense que la problématique, c'est parce que c'est lié au vieillissement de nos centrales, hein, mais c'est que partie remise, parce qu'une fois qu'elles auront été entretenues, parce qu'il y a des gens qui travaillent actuellement, pour les remettre à niveau, on retrouvera notre force de production. Et ça, c'est un atout important pour notre pays.